France Inter.
Bonsoir à tous. Ariane 5 est en retraite, Ariane 6 en retard. Alors l'Europe utilise l'américain SpaceX pour lancer deux de ses satellites Galileo. C'est une première et la preuve d'une certaine faiblesse de l'Europe spatiale, vous l'entendrez. Le gouvernement reconnaît l'accident de recette sur les finances publiques, mais pas le laisser faire. Débat d'orientation budgétaire aujourd'hui sans vote à l'Assemblée. Les oppositions menacent d'une motion de censure. L'actualité, c'est encore l'âge de Joe Biden, point critique de la campagne du président sortant aux États-Unis. La folie qui s'empare des supporters du stade brestois. Après la victoire d'hier face à Rennes, il touche du doigt le rêve européen. Et puis la série Parlement mouille la chemise pour inciter les électeurs à voter pour les européennes. Juste après ce journal, on vous retrouve en direct de Madrid, Fabienne.
Et ouais, toujours en direct du café commercial dans une Espagne secouée. Hein. Vous l'avez suivi en même temps que nous par 5 jours de silence de son président du gouvernement. Et pour poursuivre donc notre exploration de ce pays à 6 semaines des européennes, on l'a touché du doigt en première heure. Nous allons nous apesantir sur la place de Vox, l'extrême droite, en Espagne, mais aussi en Europe. Et puis je vous emmènerai, Hélène, faire la connaissance d'Isabelle Coixet, réalisatrice, scénariste, catalane. C'est elle qui cumule le plus de Goya, l'équivalent des Césars. Elle a beaucoup de choses à dire. À tout de suite.
France Inter.
La Commission européenne s'est bien gardée d'en faire la promotion. Pas d'annonce en grande pompe, pas de conférence de presse, un simple tweet passé inaperçu dans la journée d'hier pour confirmer l'envoi de deux satellites Galileo, le GPS européen, non pas avec une fusée européenne, mais avec un lanceur SpaceX américain. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Et c'est une première dans l'histoire de ce programme.
Oui, dans la nuit de samedi à dimanche, la fusée Falcon 9 depuis Cap Canaveral a correctement mis en orbite deux satellites Galileo. Pour le compte de l'Europe, cette mission sera suivie d'une autre cette année, conformément au contrat signé entre la Commission européenne et la société américaine. Jusqu'ici, pour ce programme hautement stratégique qui garantit la souveraineté aux 27 pour le positionnement par satellite, civil et militaire, seules deux fusées étaient utilisées, Ariane 5 et Soyouz, opérées depuis la Guyane, donc sous contrôle d'Arianespace. Mais avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et la fin d'exploitation des Ariane 5, l'Europe est privée depuis 8 mois de son accès autonome à l'espace. Pour assurer la continuité du service Galileo, il fallait impérativement lancer des satellites. La Commission avait donc fait le choix de se tourner vers SpaceX, qui a réalisé la première des deux missions il y a quelques jours.
Et ça met en lumière la faiblesse actuelle des lanceurs européens.
Oui, cela met l'accent sur les 4 ans de retard du programme Ariane 6. Covid, problèmes techniques, essais sécurisés au maximum. La mission inaugurale est prévue entre le 15 juin et le 31 juillet. Après la fin des Ariane 5 en novembre, cela fait donc 8 mois de trou d'air, mais le plus surprenant, eh bien, la communication autour de ce dossier. Discrétion maximum, pas de mention de l'opérateur SpaceX, comme si ce nom était devenu tabou pour l'Europe spatiale. Il faut dire que le concurrent américain a de quoi contrarier, une centaine de tirs par an désormais. Pourtant, le calendrier de commande d'Ariane 6 est plein. Une trentaine de satellites, dont 4 Galileo de la nouvelle génération. Arianespace vient de l'annoncer. Les 3 premières années d'exploitation du nouveau lanceur européen sont déjà bien remplies, mais le rythme de croisière prévu est plus modeste. 9 tirs par an.
Éclairage signé Sophie Bécherel, merci à vous. Les États-Unis, où la campagne présidentielle est toujours aussi délétère entre les affaires judiciaires de Donald Trump et l'âge des deux candidats. 77 ans pour l'homme d'affaires, 81 pour Joe Biden. C'est la seule chose que nous avons en commun, a ironisé le président Biden ce week-end au dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. Joe Biden masque de plus en plus difficilement ses faiblesses. Bonsoir Sébastien Pavour.
Bonsoir à tous.
Notre correspondant en direct de Washington, un président qui peine à enfiler sa veste à cause du vent, qui cherche son chemin pour quitter une scène ou qui désormais ne marche plus seul jusqu'à son hélicoptère.
Oui, vous avez peut-être déjà vu ces images qui sont presque un rituel de la politique américaine. Le président qui marche tout seul sur la pelouse sud de la Maison Blanche, vers ou depuis cet hélicoptère Marine One qu'on entend derrière moi pour quitter ou pour rentrer au bureau ovale. Eh bien, ce moment de quelques dizaines de secondes, Biden n'en veut plus. Il ne veut plus qu'on se concentre, en fait, sur sa démarche raide, hésitante. Il sait qu'il fait ses 81 ans et que ce court déplacement jusqu'aux 7 marches de l'hélicoptère ne lui rend pas service. Les républicains et des électeurs démocrates le trouvent trop vieux pour être réélu. Biden a donc demandé depuis deux semaines à être accompagné devant les caméras, à être entouré de conseillers, comme ses chefs de cabinet adjoints par exemple. L'idée est que les téléspectateurs se focalisent un peu moins sur ses pieds qui traînent sur l'herbe et pour faire un peu oublier qu'il est un vieux monsieur en fait tout simplement. Il porte aussi de plus en plus souvent une paire de baskets noires avec de grosses semelles pour être mieux maintenu. Et depuis plusieurs mois déjà, eh bien, il monte dans le Boeing présidentiel Air Force One par un escalier plus court pour qu'on pense moins à son âge et pour limiter aussi les risques de trébucher.
Sébastien Paour en direct de Washington aux États-Unis. Le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza s'intensifie dans les universités. Les manifestants multiplient les occupations ces derniers jours. La police anti-émeute souvent déployée, des centaines d'étudiants arrêtés. On en est très loin en France, mais la police est intervenue à la Sorbonne aujourd'hui pour évacuer une cinquantaine de militants qui avaient installé des tentes à l'intérieur des locaux à la demande du Premier ministre. Et après la mobilisation à Sciences Po la semaine dernière, Valérie Pécresse dit aujourd'hui suspendre les financements de la région Île-de-France à l'établissement. Ça représente autour d'1 million d'euros sur un budget d'un peu plus de 200 millions. Mais quelle est l'ampleur réelle de la mobilisation dans les universités? Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Est-ce qu'elle touche d'autres campus?
Eh bien, il commence à y avoir quelques rassemblements, parfois des occupations et des campements dans certaines universités ou établissements. 5 jusqu'à aujourd'hui, d'autres seront sans doute concernés à partir de demain, mais on ne peut pas parler d'un mouvement d'ampleur. Ces actions sont organisées par les comités Palestine créés ces derniers mois dans les universités et qui sont soutenues par l'Union étudiante, le principal syndicat étudiant. Éléonore Schmitt est la porte-parole.
Depuis la mobilisation à Sciences Po la semaine dernière, ce qu'on voit c'est qu'il y a une vraie fenêtre qui s'est ouverte avec aujourd'hui Saint-Étienne qui était mobilisé, Paris 8 donc à Saint-Denis, Paris 1, Sorbonne et également l'INALCO qui est une petite école à Paris. Demain, il y aura également Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lyon et encore Amiens qui seront mobilisés. On a plusieurs modes d'action, donc ça va beaucoup dépendre des différentes villes, des différents types d'établissements aussi. Le plus de modes d'action aussi possible pour arriver à faire monter la pression.
Mais une pression limitée au regard des chiffres, puisque le nombre d'étudiants mobilisés est faible. Une cinquantaine d'occupants, vous le disiez Hélène, cet après-midi à la Sorbonne. À Saint-Étienne, ils étaient une vingtaine, alors que l'université compte 20 000 étudiants.
Sonia Princey. Et au Proche-Orient, une trêve se dessine-t-elle? Réunion d'importance au Caire entre des représentants d'Égypte et du Qatar, tous deux des pays médiateurs avec les États-Unis et le Hamas. Le chef de la diplomatie américaine juge la proposition qui est sur la table extraordinairement généreuse, l'Égypte dit avoir bon espoir. En France, le gouvernement était cet après-midi sous les tirs croisés des oppositions. Débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée, alors que Bercy cherche de nouveaux milliards d'euros d'économies pour cette année. Débat sans vote, mais le RN et la France Insoumise donnent 30 jours au gouvernement pour qu'un projet de loi de finances rectificative soit soumis au Parlement. Faute de quoi, disent-ils, ils déposeront une motion de censure. Le député RN, Jean-Philippe Tanguy.
Votre arrogance et votre prétention à réussir demain là où vous avez échoué prouvent que le ridicule ne tue pas. Vous avez donc 95 milliards à trouver. Aussi, le groupe Rassemblement National demande qu'un projet de loi de finances rectificative soit soumis au Parlement d'ici 30 jours, 149.3. Si au terme de ces 30 jours, le gouvernement persiste à ignorer le Parlement, le groupe Rassemblement National déposera alors une motion de censure. Compte tenu, hélas, du sectarisme délétère qui anime les groupes de cette Assemblée depuis 2 ans, nous savons qu'une motion déposée par le groupe Liot ou par les Républicains est la plus à même de renverser enfin ce gouvernement. Nous assumerons nos choix devant les Français. Il est temps, chers collègues républicains, que vous assumiez les vôtres.
Le député RN Jean-Philippe Tanguy, réponse du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, il reconnaît un dérapage, mais pas de laisser aller.
Alors oui, il y a eu un accident de recette. Je le reconnais bien volontiers, mais n'essayons pas de confondre un accident sur une année avec 7 années dans lesquelles nous avons tenu nos objectifs de déficit et nos objectifs de croissance. Le rétablissement des comptes, ce n'est ni le laisser-aller généralisé que propose la France Insoumise, ni l'hypocrisie du Rassemblement National qui, sous les habits de la rigueur, présente un programme communiste de dépenses généralisées. Je suis convaincu qu'une majorité de parlementaires, plutôt que le choix de la censure et du chaos, fera celui de la responsabilité.
Échange suivi par Laurence Perron à l'Assemblée. Les finances publiques devenues un angle d'attaque de la campagne des européennes. Les candidats sont en campagne aujourd'hui. Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique à Grenoble. Valérie Ayé pour la majorité présidentielle à Toulouse. Les Insoumis à Trappes et l'écologiste Marie Toussaint était ce matin à Arcueil. Et pour inciter les électeurs à aller voter le 9 juin prochain, l'équipe de Parlement, cette série qui nous a plongé dans les coulisses du travail des eurodéputés avec beaucoup d'humour, eh bien, elle retrousse ses manches en produisant de courtes vidéos pour les réseaux sociaux et elles font mouche, Alexandra Akoun.
Tout le monde peut voter, mais vous vous rendez pas compte, même Gilles.
Condenser l'humour décalé de Parlement et ses personnages ou en couleur pour donner envie d'aller voter. La productrice de la série, Fabienne Servan-Schreiber, européenne convaincue, sollicitée par l'Institut Jean Monnet qui œuvre à la promotion du projet européen, n'a pas hésité longtemps, assumant pleinement un parti pris politique.
Donner les rushs, c'était pas simple du tout. En revanche, faire écrire mes équipes, produire des petits films originaux, on a foncé. On a tous trouvé ça formidable. Vous avez vu les sondages français ? L'extrême droite arrive à quasiment 40%. Et dans d'autres pays européens aussi. On sait quand même que ces gens, ils vont pas défendre l'Europe. Donc l'heure est grave.
De quoi il s'occupe le Parlement européen ? De rien, il faut rien.
C'est du blabla.
Les normes environnementales quand même.
Par ça.
La libre circulation en Europe.
Ouais, enfin, pas...
C'est pas quoi ?
Déconstruire les préjugés, faire de la pédagogie, là aussi l'esprit de la série, qui nous plonge depuis 3 saisons dans les arcanes des institutions européennes, a été parfaitement respecté.
Tout le monde critique l'Europe, personne ne sait que c'est devenu absolument essentiel à nos vies ce qui se décide là-bas. Donc, il faut faire aimer, il faut faire connaître, et 30 secondes où tu vois des gens se marrer, ça attire l'attention. Alors après, ils voient le titre, ils se disent, tiens, il se passe quelque chose le 9 juin. C'est ça le pari, bien sûr.
Deux clips circulent déjà sur les réseaux sociaux. D'ici fin mai, il y en aura 8, avec des diffusions également prévues sur France Télévisions, TV5 Monde et France 24.
Alexandra Akoun, le journaliste de France Info, Jean-François Aquili, est licencié pour faute grave, manquement répété aux obligations déontologiques sur les collaborations extérieures, fait savoir Radio France, après les révélations des journaux Le Monde et Libération sur des échanges qu'a eu le journaliste avec le président du Rassemblement National sur l'écriture d'une autobiographie et une activité de media training de chef d'entreprise exercée pendant au moins 10 ans. Et voici un procès qui pose la question de la protection de ceux qui acceptent de collaborer avec la police. Alors que le gouvernement fait de la lutte contre les trafics de drogue une priorité, ce dealer a été violemment agressé en prison après avoir donné des informations aux enquêteurs. Charlotte Piret, ses agresseurs présumés font face à lui aujourd'hui à Bobigny. Il avait prévu de parler mais tout s'est écroulé à l'audience.
C'était pas vrai. En visioconférence depuis la prison où il est incarcéré, le jeune homme rétropédale. Lui qui, un matin novembre, les mains profondément tailladées, les oreilles cisaillées, le torse blessé, avait expliqué qu'il venait de se faire agresser par d'autres détenus en représailles des informations livrées à la police sur leur trafic de stupéfiants. Lui qui, quelques jours après, lors de son procès pour trafic d'héroïne, avait à nouveau balancé son réseau et s'était dit encore menacé pour ça. Son codétenu avait même été contacté pour le poignarder. Mais aujourd'hui, j'ai fait exprès de mettre des coups de poing dans le mur. Mais monsieur, sur vos mains, ce sont des traces de cutter, relève le président. C'est parce que le mur est en crépi. Ceux qui sont dans le box n'ont rien à voir avec ça, s'empresse-t-il d'ajouter. Pour le tribunal, ne reste alors plus que les images de vidéosurveillance de la maison d'arrêt de Villepinte. Mais elles s'arrêtent à la porte des douches. Une heure de va-et-vient, de comportements certes suspects, de détenus qui font le guet, restent trop longtemps dans ces douches, mais rien de tangible. Aucun des surveillants entendu dans la procédure, aucune fouille de cellules, déplore le tribunal dans son délibéré. Alors, même si on peut très largement douter de la véracité des propos du plaignant aujourd'hui, les 3 prévenus sont relaxés. Au bénéfice du doute, conclut le président. Cette fois encore, la loi du silence a eu le dessus.
Compte rendu d'audience signé Charlotte Piret. Un adolescent de 15 ans et sa mère présentés à un juge du pôle criminel de Bourges pour homicide volontaire ce soir après le meurtre à l'arme blanche d'un jeune garçon, Mathis, samedi soir en pleine rue à Châteauroux. La garde à vue de Gérald Depardieu est levée. L'acteur convoqué par les enquêteurs après 2 plaintes pour agression sexuelle déposées par 2 femmes pour des faits qui se seraient déroulés entre 2014 et 2021 sur un tournage. À 19h14, on monte dans le train, dans le TGV M, comme modulable, dernier né des usines Alstom pour la SNCF, présenté aujourd'hui à Belfort, avant de le trouver sur les voies, pas avant le second semestre de l'année prochaine. Tout blanc vêtu, on le promet avec plus de sièges et moins gourmand en énergie. Visite guidée avec vous, Maxime Deps.
Mais ce nouveau TGV, son accueil superstar, fut
fumée bleue et projecteur à sa sortie des entrepôts Alstom ce matin. Ses caractéristiques, sa couleur, vous l'avez dit, blanche pour limiter l'impact des rayons du soleil par forte chaleur. Son nez allongé surtout pour plus d'aérodynamisme encore.
Il a vraiment une gueule ce train.
Le patron d'SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, qui énumère ses qualités.
D'abord plus de place, 20% de place supplémentaire à bord de ce train. Il est modulaire, ce qui veut dire qu'on pourra y mettre plusieurs voitures de seconde, des places pour le vélo. Et aujourd'hui, avec Alstom, nous sommes confiants de pouvoir avoir ces trains à l'été 2025. Nous en avons absolument besoin.
La SNCF qui n'aurait pas dit non, clairement, à ses rames cet été, mais des retards de fabrication en ont décidé autrement, au plus grand regret du directeur général d'Alstom Transport, Jean-Baptiste Eméo.
Oui, ben, les retards, si vous voulez, on avait ciblé à l'origine, quand on a signé ce contrat, de mettre en service avant les Jeux Olympiques. C'est ce qui avait été communiqué. Je ne vais pas revenir sur le Covid, mais il y a eu un certain nombre d'aléas techniques et industriels qu'il a fallu gérer. La SNCF. Et aujourd'hui, ben, on arrive avec un train qui quand même va être conforme à ce qu'on attendait de lui.
115 rames au total ont été commandés de ce nouveau train qui seront livrés au compte-goutte. Les 4-5 premières desserviront le sud-est, réponse à la concurrence de Trenitalia, très agressive ces derniers mois sur l'axe Lyon-Paris.
Et puisqu'on est sur les rails, sachez qu'après le terraillement d'un TER à cause de fortes pluies hier, la circulation des trains entre Givors et Lyon ne reprendra pas avant samedi matin. C'est de plus en plus rare aujourd'hui sur les rings, mais ce week-end, un boxeur congolais est mort après un chaos infligé par son adversaire. Le sportif de 27 ans venait de passer plusieurs semaines dans le coma, Emma Sarango.
Le combat remonte au début du mois, le 5 avril, en Floride, à Miami. Hardy Ndembo, un poids lourd congolais de 27 ans, affronte le Cubain Nestor Santana. Sur le ring, le Congolais reçoit un coup qui le met KO. Il retombe sur la tête, reste inconscient pendant de longues minutes. Vraisemblablement victime d'un traumatisme crânien, il est alors transféré en urgence à l'hôpital de Miami, où il décède donc ce week-end après 3 semaines de coma. Hardy Ndembo, né à Brazzaville, installé aux États-Unis, n'avait jamais perdu en 8 combats professionnels. Son décès survient 2 mois après celui d'un boxeur japonais de 23 ans après une hémorragie au cerveau.
Emma Sarango, le football côté tuile, c'est cette blessure qui tombe mal à quelques semaines du début de l'Euro de football. Le gardien de l'équipe de France, Mac Maignan, qui joue à l'AC Milan, s'est blessé l'adducteur droit. Alors que Didier Deschamps doit annoncer la liste des tricolores retenus le 16 mai prochain. Et le foot côté fête, c'est à Brest que ça se passe. Impressionnant, vainqueur du derby breton hier soir 5-4 face à Rennes. Le stade brestois toujours 3e, précieuse 3e place qui serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Alors c'est un peu la folie. Aujourd'hui, à la boutique officielle du stade, Valérie Lenigène y est allée y faire un tour.
Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe.
Malo n'a que 6 ans et il court dans les rayons de la boutique du Stade Brestois avec une joie de vivre partagée par tous les supporters. Le téléphone de la boutique sonne sans interruption à la recherche de places pour les prochains matchs à domicile, mais il n'y en a plus. Johan Guyader, responsable merchandising.
Il y a un engouement tout autour, que ce soit des abonnés, du public, mais des gens qu'on ne connaissait pas non plus de l'extérieur d'avant.
Dans les rayons de la boutique, des femmes cherchent une casquette pour leur père.
Ah bah oui, hier avec le match, il a vu ça, il a dit moi je veux la nouvelle casquette. Enfin la nouvelle, je ne sais pas si elle vient de sortir. Mais...
Bah non, en fait, il a vu celle de l'entraîneur, donc il n'avait pas celle-là, donc forcément il veut celle de l'entraîneur, mais non.
Et puis il y a Jérôme venu faire un cadeau à un copain rennais, ses vaches, et cette famille qui n'est toujours pas redescendue de son petit nuage.
Tous les trois, on est foot et non, c'est important pour Brest qu'ils soient en Coupe d'Europe. C'était par rapport à la saison qu'ils ont fait, c'est énorme, donc c'est mérité pour eux.
Ils méritaient, au début de saison, on pensait pas ça, mais après, c'est mérité qu'ils vont en Coupe d'Europe.
Stade Brestois, Coupe d'Europe, Stade Brestois.
Bah, on l'espère évidemment. Un reportage de France Bleu, Breizh-Izel. À l'instant, Rafael Nadal se qualifie pour les 8e de finale du Masters de Madrid après une 3e victoire d'affilée. Madrid, où l'on retourne dans un instant, juste après la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Le temps avec vous, Élodie Calac, encore perturbé demain et parfois orageux.
Oui, on retrouvera nos pluies de l'Occitanie vers le centre Val-de-Loire, la Bourgogne et la frontière belge, avec des pluies plus marquées du Languedoc-Roussillon aux Cévennes le matin. L'après-midi, encore quelques averses et un axe pluvieux et parfois orageux du Languedoc et de la vallée du Rhône vers la Bourgogne puis la Champagne, avec de la grêle possible, un risque d'orage aussi en remontant vers la frontière belge pour l'après-midi. À l'est, pas mal de nuages, mais du soleil quand même sur l'Alsace. L'après-midi, de la pluie sur les Alpes, ça tournera à l'orage sur le nord-est. De l'Aquitaine vers la Touraine et la Normandie, là ce sera agréable avec du soleil. On a une perturbation tout de même qui arrive ce soir par l'ouest. Elle donnera de bonnes pluies sur la Bretagne demain avec un vent de sud et des nuages jusqu'à la Vendée et au Cotentin.
On gagne quelques degrés.
Oui, il fera souvent 5 à 14 degrés. L'après-midi, 13 degrés seulement à Brest sous la pluie, mais 19 à Lille, Caen, Paris, Angers. 19 aussi à Lyon, Toulouse et Marseille. 22 degrés à Besançon, à Bordeaux, à Nice et 26 degrés du côté de Strasbourg.
Merci beaucoup, Élodie Calac.